Oui, bonjour à tous et à toutes. D'abord, je voudrais vous dire merci. J'ai été accueilli avec une telle chaleur, ça faisait vraiment du bien. Merci beaucoup pour votre accueil si gentil, si chaleureux. J'ai toujours beaucoup d'appréhension parce que je suis de nature très timide. Quand je vais quelque part où je n'étais encore jamais auparavant, Daniele m'avait déjà dit, quand il m'a invité, il m'a dit, tu verras, c'est une super église. Alors oui, je lui fais confiance, hein. Mais quand même, quand je suis de nouveau quelque part, c'est... Et puis là, tout de suite, je me suis senti mais très à l'aise. Alors merci beaucoup pour votre accueil. Alors me présenter, moi j'ai toujours du mal à me présenter parce que on s'identifie par rapport à quoi, en fait. Moi, quand on me voit, je suis celui qui a des bras courts. C'est mon identification vue des autres. Alors, je n'ai pas que ça dans la vie, forcément. Ouais, j'ai toujours peur que ça glisse de l'oreille. Est-ce que ça tient? Merci. Alors oui, je m'appelle Claude. Je suis né en Allemagne. Mon père était français, ma mère était allemande. J'ai les deux nationalités. Je vis en Allemagne, à Sarrebruck. Je ne sais pas si vous connaissez. Très joli coin, tout petit coin, là, au bord de l'Allemagne, proche de la frontière française. J'ai vécu une dizaine d'années en France et puis je suis revenu en Allemagne. Voilà. Encore une fois, c'est quoi mon identité? Alors, je pourrais vous dire, oui, mon métier, c'est traducteur. Mais je trouve que ce n'est pas très passionnant, surtout que c'est de la traduction technique en plus. Alors, des instructions de service, de machines et tout ça, c'est vraiment pas passionnant. Alors j'ai d'autres choses qui me passionnent beaucoup plus, déjà ma vie. J'ai une vie assez tortueuse, assez sinueuse derrière moi. J'ai une première vie conjugale dans laquelle j'ai trois enfants, trois qui sont maintenant très grands. Et puis je me suis remarié il y a 13 ans. Ça aussi, c'est une histoire complètement folle parce que je me suis marié avec une athée. Moi, un chrétien qui se marie avec une athée, ça paraît très tordu comme idée. Mais les choses sont telles qu'elles sont et ma femme s'est convertie il y a 1 an et demi. Donc, je suis très heureux et c'était un vrai miracle ce qui s'est passé. Donc ça, c'est déjà une histoire, pour moi, une histoire extraordinaire. Et puis, je fais pas mal d'activités qui me tiennent beaucoup plus à cœur que la traduction. Je vous avoue franchement, je fais des podcasts, je fais des interventions, des émissions de radio, je fais du théâtre aussi. Voilà, ça peut paraître surprenant de voir quelqu'un comme moi sur une scène. Voilà. Et d'ailleurs, ça me permet d'avoir beaucoup de contacts avec les gens qui viennent me voir. Et je me dis, oui, il y en a peut-être certains qui se disent, waouh, si celui-là, il se met sur scène avec ses bras-là, ben moi, peut-être que je peux faire quelque chose. En fait, c'est un peu ça ma motivation et c'est ce qui me pousse aussi à vous parler ce matin. C'est, j'espère vous motiver d'une manière ou d'une autre. J'ai rencontré il y a pas très longtemps, il y a une dame qui est venue avec son fils d'une dizaine d'années et elle me disait, excusez-moi, est-ce que je peux vous interroger? Mon fils a une question à vous poser. Alors évidemment, quand les enfants posent des questions, je suis toujours ouvert, forcément, hein. Les enfants sont curieux, il faut assouvir la curiosité des enfants. Donc cet enfant me regarde et puis je sentais qu'il était très tendu et puis il regardait mes bras, mes mains et puis il me disait est-ce que c'est difficile de vivre avec ses... Et puis il n'a pas osé dire le mot bras, il n'a pas osé dire le mot main. Est-ce que c'est difficile de vivre avec ses... Et puis il ne savait pas comment le dire. C'est ça la question. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est facile de vivre quand on a quelque chose qui est différent des autres? Quand on a quelque chose qui semble une faiblesse? Merci pour le verset que vous avez dit tout à l'heure de Paul quand il parlait de sa faiblesse. Alors, est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est facile de vivre quand on a quelque chose qu'on considère comme une faiblesse. Ce n'est pas forcément un handicap, ça peut être autre chose. Ça peut être quelque chose que moi, je considère être une faiblesse, alors que pour quelqu'un d'autre, ce n'en est pas du tout une. Mais la question, c'est ça. Et le gamin, il me regardait, il me disait, moi, j'ai réfléchi toute la semaine, parce qu'on participait à un camp de famille, et il me dit, pendant toute la semaine, je me suis posé la question, est-ce qu'on peut être heureux avec des bras comme ça? Je trouvais ça tellement touchant, cette question, ce... Il se posait la question pendant une semaine. Il trimballait ça avec lui. Il se disait, mais ce gars-là, qu'est-ce qu'il peut faire dans la vie? Est-ce qu'on peut être heureux? Alors j'aimerais vous apporter quelques éléments de réponse. Peut-être que vous vous posez aussi la question, est-ce que moi je peux être heureux avec ma vie que je mène? J'ai peut-être tout, tant mieux, tant mieux. Peut-être que j'ai tout, mais il me manque quand même quelque chose. Est-ce que je peux être heureux? Vous savez, le regard que porte quelqu'un sur soi-même, c'est « Oh là là! Oh là là, le gros malheur! Oh, oh, oh. Là, le monde s'écroule! Le monde s'écroule !» Vous voyez, pour un petit bébé comme ça, voilà, il tombe, se cogne la tête, et c'est le monde qui s'écroule. Je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée. J'ai joué un tour à un gamin. Oh, je m'en veux encore un peu aujourd'hui de l'avoir fait, parce que c'était un peu vache, mais je vais vous raconter. J'étais en vacances avec ma famille, il y avait mon frère aîné qui était là. On passait toujours nos vacances en Bretagne. Et donc, les après-midi, on allait à la plage. Mon grand frère, lui, il adorait jouer au volley. Bon, moi, le volley, c'est pas trop mon truc. Avec la tête, oui, mais pas... inutile de préciser davantage, d'expliquer pourquoi. Mais je suis peut-être pas très habile avec mes mains pour jouer au volley, mais j'ai des pieds, et donc je lui piquais toujours sa balle de volley. Et puis, pour m'amuser, ben, je jonglais avec la balle. Donc avec les pieds, voilà, je jonglais. Et puis il y a un copain, mon frère, qui m'a dit, écoute, je te lance un défi, Claude. Est-ce que tu serais capable de jongler 100 fois avec la balle sans qu'elle retombe? Ce genre de défi, il ne faut pas me lancer plusieurs fois. Je lui ai dit, pari tenu, tu me laisses une semaine, je m'entraîne. Voilà. Et donc j'étais à la plage, tous les après-midi, à la plage, pendant 2 heures, je ne sais pas. J'avais la balle de volley, donc les pieds, les genoux, la tête, mais pas les mains. Hein, bon. Et puis pendant que je faisais ça, je voyais, il y avait un gamin qui s'approche de moi, et il s'arrête à... Voilà, à peu près comme vous, quoi. Il s'arrête à... Regarde. Puis la bouche, toujours... Alors, je sais que ce n'est pas parce que je jonglais bien avec la balle, ce n'est pas ça qui l'intéressait, mais il me voyait, moi. Alors, déjà, bon, quand j'ai une chemise, quand je suis habillé, on voit que j'ai des bras courts, mais imaginez, j'étais en maillot de bain. Donc, je ne pouvais pas me cacher, hein, je ne pouvais pas cacher mes bras. Ah, il me regarde. Il ne bougeait plus. Puis moi, je jonglais. Puis à un moment, bon, ça commençait à me gonfler un peu. Et je le regarde, je m'arrête, il est toujours là. Alors, comme mon père était français et ma mère allemande, j'ai grandi avec deux langues, je suis bilingue. Et donc, j'étais en France. Ce petit gamin, j'imagine, c'était un français. Et je lui lance en allemand. Je lui dis, eh ben, skuck ce Denzo, qu'est-ce que tu as à me regarder comme ça? Mais en allemand. Alors là, terminé. Mais je continue à lui parler en allemand, c'est ça le plus long. Ça tient, ouais, on va mettre du scotch. Et je continue à lui parler en allemand. Je disais, oui, bon, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et puis à un moment, il se retourne, il s'en va. Moi, je continue à jongler. Je dis, bon, bon débarras, quoi. Pff, Vous savez, c'est quand même, quand vous faites quelque chose et que quelqu'un vous observe sans arrêt, c'est qu'à un moment, ça, c'est gênant. Hein. Et puis alors, 2-3 minutes après, il revient, mais il ne revient pas seul. Il a amené ses copains. Il y en avait 6 ou 7. Et puis, ils sentaient, ils avaient envie de voir un truc. Ils se mettent autour de moi. Moi, j'étais toujours en train de jongler. Et puis, les gamins, eux, non, ils ne regardaient pas comme ça. Non, non, ils se tournaient vers leurs copains. Et puis, je sentais, ils voulaient savoir quelque chose de sa part. Mais je ne comprenais pas trop. Et puis, à un moment, je regarde le gamin, je m'arrête de jongler, et là je lui dis, mais en français, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Et lui, ouais, mais tout à l'heure il ne parlait pas comme ça. Et j'entendais les autres gamins qui lui disaient, mais alors tu nous avais raconté qu'il parlait d'une drôle de manière, qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, vous voyez. Et ils sont tous repartis. Et il n'y en avait pas un qui me regardait. Mais l'autre gamin, alors lui, il est resté encore pendant 5 minutes. Il ne comprenait plus la vie, le monde. Alors, oui, je sais que c'était vache de ma part de le planter comme ça. Mais il y a une chose qui m'est venue, que j'ai comprise. La différence de quelqu'un, c'est totalement subjectif. C'est dans le regard des autres, c'est dans ce que racontent les autres. Ce gamin, il a raconté à ses copains, il y a un gars, alors il a des bras courts, mais en plus, il parle une langue que je ne connais pas. Et donc, les autres gamins, ils étaient fixés sur la langue. Ils s'attendaient à ce que je dise quelque chose dans une langue, je ne sais pas, d'extraterrestre. Mais ils ne voyaient pas mon handicap. Enfin oui, ils le voyaient, mais ce n'était pas ça l'intérêt. Puisque leur copain le a dit, ce qui est important, c'est ce qu'il va dire. Écoutez bien. Le handicap, la différence, c'est très souvent dans le regard des autres. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai grandi dans une famille qui m'a énormément soutenu. Surtout ma mère, mes frères, n'en parlons pas. Ils m'ont fait faire tout plein de trucs que j'aurais jamais imaginé faire. Et vous savez, quand j'étais, alors ça, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais, c'était ma première année de lycée. Je ne sais pas comment ça se passe, la scolarité en Suisse. Est-ce qu'il y a aussi le lycée avec la 6e, 5e, etc. ou ça s'appelle autrement? Oui. Enfin, vous... Comment? Oui, voilà, c'est ça, la première année de secondaire. Oui. Et il y avait le cours de sport. Bon, le sport... C'était toujours un peu, quand on joue au volley, quand le prof demande à jouer du basket, bon, c'est pas... Ah, mais alors, ce jour-là, première heure de sport, il disait, on va jouer au foot. Ah, génial, moi j'adore le foot, hein. Je suis habile des pieds, moi. Et donc, le prof de sport a dit, bon, on va faire 2 équipes. Il faut d'abord 2 volontaires qui veulent jouer gardien de but. Qui va dans les buts, parce que les gardiens de but, ils vont choisir à tour de rôle les joueurs qui vont faire partie de l'équipe. Peut-être que vous connaissez ça quand vous étiez gamin ou gamine, vous avez peut-être fait pareil. Bon, alors, la question du prof de sport, c'était qui veut être gardien de but? Vous savez qui a répondu en premier? Oui, c'est moi. J'étais le premier. J'ai essayé de lever, j'ai dit, moi, monsieur. Parce que quand j'ai levé le bras, il ne m'a pas vu. Alors j'ai dit, moi, monsieur, je vais être gardien de but. Ben oui, moi, j'ai toujours rêvé d'être gardien de but. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Hein. Moi, même aujourd'hui, quand je vois des gardiens de but, moi, je trouve ça génial. Même hein, les footeux, c'est ce que c'est. Hein. Gardien de but, quand on voit à la télé, dans les ralentis, vous savez, où la balle, où vous avez l'impression, mais le ballon, il va rentrer dans le but. Et puis, tac, il y a du bout des doigts, le gardien qui réussit encore à prendre la balle. Moi, j'ai trouvé ça toujours génial. Donc, je voulais toujours être gardien de but. Et donc, pour moi, c'était normal. Je souligne, normal. puisque ça correspondait à mes rêves. Je voulais être gardien. Ce jour-là, c'était moi le gardien. Vous savez comment il a réagi, le prof? Comment? Vous avez bien suivi. Eh bien, non. Il n'a rien dit. Enfin, si, il a dit d'accord. Il aurait pu me dire. Hein. Il aurait pu dire, bon, écoute, Claude, ça ne va pas le faire. Il n'a rien dit. Il m'a dit, vas-y, fais-le. OK. Qui est le deuxième gardien? Donc, pour moi, tout restait normal. Hein. Il n'y avait pas de problème. Et donc, on a commencé à jouer. Le problème, c'est qu'après 5 minutes, ben, les adversaires, ils menaient déjà 3-0. Mais ce qu'il y a, moi, je ne comprenais pas que c'était en partie à cause de moi. Bon, alors, on ne jouait pas dans des grands buts, hein, on jouait dans des buts de handball. Mais quand on est petit, c'est grand. J'avais quel âge? J'avais 11-12 ans, à peu près. Et oui, alors quand les balles arrivent à hauteur de la tête, bon, je les arrête avec la tête ou sinon avec le pied, mais bon, quand c'est à mi-hauteur, là, normalement, on prend la main, les bras, bon, je ne pouvais pas. Et donc, les adversaires menaient déjà 3-0. Hein, mais je ne comprenais pas. C'est pas ma faute, c'est mes joueurs, hein, ils sont tellement nuls. Les défenseurs, ils font rien, bon. Et puis à un moment, alors c'est là que ça devient intéressant, c'est que le prof de sport, il vient pas, il me dit, bon Claude, tu vois que t'es nul. Non. Il me dit, écoute, on va changer. On va procéder à un changement. Toi, tu vas jouer défenseur, et puis Dominique, là, il va jouer dans les buts. Pourquoi pas ? Mais encore une fois, il ne m'a pas dit « c'est à cause de toi que vous êtes en train de perdre. Tu ne vois pas que tu es nul. » Non. Il m'a simplement proposé « on va faire autre chose. » Ah ben moi, je veux bien. Je suis tellement reconnaissant à ce prof de sport. Il s'appelle M. Robert. Je n'ai jamais oublié son nom, son visage. Parce qu'il aurait pu me dire que je suis nul dans les buts. En même temps, il aurait eu raison, parce qu'effectivement, j'étais nul dans les buts. Mais il ne me l'a pas dit. Si j'avais continué à jouer dans les buts, j'aurais tout le temps perdu. À moins de jouer contre une équipe d'aveugles. Et encore, je ne sais pas si vous avez vu le Cécifoot, ça s'appelle. C'est-à-dire, c'est du foot joué par des aveugles. Ils jouent, il y a des, je dirais, des sortes de poids, P-O-I-S, dans le ballon qui font du bruit. Mais ça joue, c'est fabuleux. Je crois que j'aurais même perdu contre eux. Mais bon, bref, j'aurais toujours perdu. Et à un moment, j'aurais dit, bon, il y en a marre du foot. Je vais faire autre chose. Hein, je vais jouer, je sais pas, aux boules ou un truc comme ça, quoi. Mais grâce à ce prof qui m'a proposé simplement une autre chose, une autre vision du jeu, j'ai gardé le plaisir de jouer au foot. Je me suis dit, oh, je me débrouille bien derrière, défenseur, je suis grand, ça aide toujours. Puis après, j'ai joué une fois devant, j'ai marqué des buts, j'ai trouvé ça, wow, c'est super, ça marche. Puis bon, j'ai continué à faire du sport. Mais s'il ne m'avait pas présenté cette autre possibilité, j'aurais arrêté de faire du sport peut-être. Alors pourquoi je vous raconte cette histoire? Évidemment, c'est quelque chose de fondamental. Quand quelqu'un vient et propose une autre perspective. Et dans les évangiles, il y a une histoire, c'est pratiquement la même histoire que j'ai vécue. Quand je l'ai lue, je me suis dit, mais bon sang, mais c'est vrai. Alors, il n'est pas question de foot, ni de prof de sport. Il n'est pas question d'un terrain de foot, mais d'une piscine. Bon, ce n'est pas une piscine olympique. On ne fait pas de la natation, on ne fait pas du plongeon. Mais c'est une piscine, c'est un grand bassin où se réunissent tout plein de monde autour. Et toutes ces personnes ont un problème quelconque, généralement un problème physique. Il y a des personnes qui sont invalides, des personnes qui peuvent même plus du tout marcher. Il y en a d'autres qui ont d'autres problèmes, qui ne voient plus, qui sont aveugles, qui sont sourds. En tous les cas, ils se sont tous réunis autour de ce bassin. Il y en a peut-être 200, 300. Qu'est-ce qu'ils font là? En fait, ils ont tous une autre maladie. Mais cette fois, cette maladie, c'est la même pour tous. Ils ont cette maladie, cette nécessité, ce besoin, ce désir d'être le premier à atteindre l'eau. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est une histoire qui est racontée, si vous voulez la relire, c'est dans l'Évangile selon Jean, chapitre 5. Et on raconte que l'eau, à un certain moment, se met à bouger. Il y a des clapotis, il y a peut-être des vagues, je ne sais pas comment ça se passe. Et à ce moment-là, le premier qui arrive dans l'eau, il est guéri. On ne sait pas quand c'est, il n'y a pas d'horaire, il faut rester là et puis il faut attendre. Et puis le moment venu, quand l'eau commence à bouger, il faut se dépêcher pour être le premier. Alors vous imaginez les 200, 300 personnes, peut-être qu'il y en a même plus, je ne sais pas. Chacun, au moment où il entend l'eau bouger, mais il va essayer de se précipiter vers l'eau pour être le premier. Alors, ceux qui sont au bord de l'eau, ils ont un peu plus de chance. C'est un peu comme, je ne sais pas si vous avez déjà passé des vacances dans un hôtel avec une piscine. Comment ça se passe, hein, le matin, hein, dès que la piscine est ouverte, il y a déjà la queue des gens qui viennent avec leur serviette pour mettre leur serviette sur le transat qui est au bord de la piscine. Ouais, bah ceux qui se lèvent un peu plus tard, manque de peau, ils n'auront pas de transat au bord de la piscine. Mais là, il n'est pas question d'avoir une place au soleil. Là, il est question de santé, de vie. Il y a ceux qui sont donc un peu plus loin. Bon, ils n'ont pratiquement aucune chance. Puis il y a ceux qui ne voient pas, qui sont peut-être aveugles. Alors pour eux, c'est un peu plus compliqué. Ah oui, solidarité, il n'y en a pas à cet endroit. Ça n'existe pas. Parce que chacun veut être le premier. Donc on s'en fiche des autres, on va essayer de pousser les autres. Alors imaginez quelqu'un qui ne peut pas marcher du tout, qui se retrouve 20 mètres derrière, aucune chance. Et justement, il y en a un. Et il est même raconté que ce gars, il est depuis 38 ans. Il vit là. 38 ans. Je ne sais pas quel âge vous avez. Mais pour moi, 38 ans, donc presque 40 ans, mais c'est deux tiers de ma vie. Mais qu'est-ce qu'il fait pendant 38 ans? Évidemment, il essaye d'être le premier, mais il est paralytique. Qui est paralytique ne peut pas bouger. Il n'est certainement pas au premier rang en plus. Hein. Parce qu'il y en a d'autres qui l'ont poussé. Et pendant 38 ans, c'est-à-dire pendant toute sa vie, enfin, je ne sais pas quel âge il a, peut-être qu'il a 50 ans, 55 ans. Peut-être depuis qu'il est enfant, et à un moment, il s'est mis là et puis il se dit « Ah tiens, mais je sais qu'il y a un moyen de guérir, donc il faut que je fasse ça. » Et pendant 38 ans, il est là. Il entend l'eau bouger. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'espoir. L'eau qui bouge, c'est l'espoir, parce que c'est la seule façon de guérir. Et en même temps, c'est la frustration, parce qu'il sait « De toute façon, j'y arrive pas. » Je ne sais pas si vous connaissez ce genre de situation. Vous avez de l'espoir pour quelque chose. Et puis en même temps, vous savez que vous n'y arriverez pas. C'est terrible. Et puis toujours de faire la même chose. Oups. Merci. Toujours le même schéma. On fait toujours la même chose, tout en sachant qu'on ne va pas y arriver. Je crois que c'est Einstein qui avait dit, qui avait donné une définition de la bêtise. Alors même si ce n'est pas une forme de bêtise, mais Einstein disait que la bêtise, c'est de faire toujours la même chose en connaissant le même résultat. Et la bêtise, c'est de faire toujours la même chose en espérant qu'un jour, le résultat change. prenez un verre d'eau, vous le laissez tomber par terre, il va toujours tomber par terre. Vous allez essayer 100 000 fois, vous dites peut-être qu'un jour il va voler. Mais non, il ne va pas voler, il va toujours tomber par terre. Et donc c'est ce que cette personne, pendant 38 ans, vit au quotidien. Une espérance et en même temps la grande déception. Évidemment, l'histoire ne s'arrête pas là. Ce gars, tout le monde devait le connaître. Ça devait être un sacré original. Et je pense que les gens en ont parlé à Jésus quand il venait par là. Il dit, écoute Jésus, il y a un gars là, il est au bord du bassin à la Bethesda. Tu ne veux pas aller le voir. Écoute, ça fait 38 ans quand même. Il faut faire un truc. Il y en a d'autres déjà qui sont passés qui l'ont dit, mais fais autre chose. Non. Mais peut-être que toi, tu vas faire quelque chose. Et Jésus va le voir. Il voit le paralytique. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lui pose une question. Et quand on entend la question, on se dit, mais attends, t'as rien compris là. Jésus demande au paralytique, est-ce que tu veux guérir? Évidemment. Mais c'est clair, non? Ça fait 38 ans qu'il est là, il veut guérir. Et Jésus lui pose la question, est-ce que tu veux guérir? Non mais attends, Jésus... En fait, ce n'est pas la question de Jésus qui est surprenante, c'est la réponse du paralytique. Moi, à sa place, j'aurais dit, bien sûr, j'attends que ça. Ça fait 38 ans que j'attends ça, et toute ma vie. Eh bien non, le paralytique, il ne dit pas, oui, je veux guérir. Vous savez ce qu'il dit? Vous vous souvenez de l'histoire, si vous la connaissez? Exactement. Il dit, il n'y a personne qui est là pour m'aider, pour m'apporter jusqu'au bord de l'eau. Et puis, il commence à se plaindre. Ouais, ils sont comme ça, tu vois pas, les gens, ils s'occupent que d'eux, ils sont tous des égoïstes, et puis moi, j'aurais besoin d'aide, il n'y a personne qui vient m'aider. Et puis, il commence à se plaindre, et toutes ces jérémiades et tout ça. Eh bien, c'était pas la question, hein. Je t'ai pas demandé ce qui se passe. Je te demande si tu veux guérir. C'est tout, hein. C'est oui ou non. Ça, je crois que c'est une autre maladie, de se plaindre. Hein, vous êtes là, on vous demande comment ça va. Vous connaissez ça. Vous rencontrez des gens, des connaissances. Alors, comment ça va? Oh là là, Ah, et puis ça, et puis vous regardez l'heure. Voilà. Ah ouais, et puis... Voilà. Protestation juvénile. Le paralytique se plaint. Je crois que c'est une de ses principales maladies. Il n'est pas seulement paralytique. Il se plaint. C'est la faute des autres. Si les autres étaient autrement, ma vie serait différente. C'est ce qu'il dit. Alors Jésus, on a l'impression il n'écoute même pas. Moi, je sais, moi, si quelqu'un vient se plaindre, moi, je m'assieds à côté de lui, et puis, oh là là, puis je passe 2 heures avec lui. Et peut-être pour rien. Mais Jésus, lui, qu'est-ce qu'il lui dit? C'est à ce moment-là que Jésus lui montre tout simplement une autre perspective. Il ne va pas rentrer dans le jeu là, de ses plaintes, de toute façon ça ne sert à rien. Vous savez ça aussi. Hein, quand les gens se plaignent et que vous dites « Ah ouais, t'as raison, c'est tellement grave, et puis le gouvernement, et puis ça ne sert à rien. » Et là Jésus vient et lui dit « Moi je te propose autre chose. » Elle lui dit, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. C'est simple comme bonjour. Ça veut dire d'abord, ne reste pas là où tu es. Là, tu es entouré de personnes qui ne pensent qu'à elles, qui ne sont fixées que sur leur vie, sur leur malheur, sur ce qui ne va pas. Cet environnement te rend malade. Sors de cet environnement. Ce n'est pas ta place. Et ensuite, il lui dit, tu as des jambes. Ah, mais mes jambes, elles ne bougent plus, elles ne marchent plus. Allez, mais moi, si je te dis, serre-toi de tes jambes, tu peux te lever, tu peux marcher, tu peux me faire confiance. C'est là que je me suis dit, qu'est-ce que j'aurais fait, moi, à sa place? Qu'est-ce que j'aurais fait si Jésus m'avait dit, vas-y, prends la balle de volley et puis va jouer au volley? J'ai dit, ça ne va pas, la tête. Je ne peux pas, ça ne marche pas. Ça ne marchera pas de toute façon. Mais je crois que la manière dont Jésus a dit ça au paralytique était tellement convaincante. Il devait dire ça avec, je ne sais pas, quelque chose que personne d'autre n'a. Que le paralytique, il s'est dit, ben, je vais essayer. Et il a commencé à bouger ses membres, ses bras, ses jambes. Puis il devait se dire, mince, qu'est-ce qui se passe? Puis j'imagine que Jésus était là, il dit, mais vas-y. Peut-être que Jésus lui a même tendu la main. Tiens, enfin, un peu plus que la mienne. Vas-y, tiens-toi pour te relever. Je t'aide. Mais relève-toi, vas-y, vas-y, tu peux. Puis le paralytique se lève, j'imagine, un peu chancelant. Hein, ça fait 38 ans qu'il n'a pas marché quand même. Les muscles sont très faibles, mais il se tient debout. Puis la réaction quand on lit l'histoire, mais il est content, il est tellement content, il va raconter à tout le monde. Ça va entraîner des ennuis à Jésus après. Bon, mais ça, c'est pas son problème. Le problème, son problème n'est plus là, il est guéri. Parce que Jésus lui a donné une autre perspective. Il lui a pas dit à ce paralytique. Ah, t'es nul, quel abruti tu es, quelle bêtise. Non, non, pas du tout, du tout, du tout. Il a considéré ce paralytique tel qu'il est, dans son malheur, oui. Mais l'a relevé. Et ce n'est pas lui-même Jésus qui l'a relevé, mais il a invité le paralytique à se relever lui-même. Ça, c'est extraordinaire. Si Jésus n'était pas passé par là, un peu comme mon prof de sport à l'époque, ce paralytique, il serait mort un jour devant ce bassin, il serait passé à côté de la vie. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche parce que tu peux me faire confiance, dit Jésus. Alors oui, toi tu es paralytique, mais il y en a d'autres qui ont des bras courts, des mains déformées. Il y en a d'autres qui se sentent restreints physiquement dans leurs activités, qui ont du mal à marcher, qui ont du mal à voir, mal à entendre, qui ont des douleurs, peut-être le matin en se levant, tout le corps qui fait mal, peut-être en raison de l'âge. Puis il y a tous ceux qui ont l'impression d'avoir des restrictions dans ce qu'ils font, de se sentir moins intelligent que d'autres, moins fort que les autres, moins capable que les autres. Ça, c'est une autre maladie terrible, de se comparer aux autres. Il y en a toujours un qui fait quelque chose de mieux que toi. Le champion olympique du 100 mètres, Hein, il court vite. Hein. Je pense que personne parmi nous ne court aussi vite que lui. Il doit dire, moi, je suis le plus rapide du monde. Ouais. Moi, par rapport, si je me compare à lui, je suis nul. Au 100 mètres, je suis nul. Lui, il fait ça en 9 secondes, 8 secondes, je crois. Peut-être même un peu moins, je crois. C'est... Enfin, 8 secondes, vous imaginez 100 mètres en 8 secondes. Moi, il me faut une minute. Ouais, mais voilà, lui, il est champion olympique de 100 mètres, mais il ne parle pas français. Moi, je parle français. Et toc. Vous voyez, quand on compare, il y aura toujours quelqu'un qui fait quelque chose de mieux que moi, que toi. Mais ce n'est pas ça qui compte. Le paralytique, en se comparant aux autres, il dit, mais qu'est-ce que j'ai, moi ? J'ai rien. J'ai un corps qui ne fonctionne plus. Jésus vient et lui dit, moi, je te propose quelque chose. Il suffit de me faire confiance. Et si moi, je te dis, lève-toi, tu peux marcher. Prends tous tes clics et tes claques, ton matelas, tu t'en vas. Ce n'est plus ta place ici. Moi, je te donne une autre perspective. Donc, si vous entendez Jésus vous dire « Allez, lève-toi, marche !» Faites-lui confiance. Si vous sentez qu'il vous donne une nouvelle perspective dans votre vie, wow, allez-y, allez-y. Il vous tient par la main, il vous aide à vous relever, puis il dit, viens, on va faire un petit bout de chemin ensemble, puis tu vas voir ce qui va se passer. Mon prof de sport, je ne l'oublierai jamais. Mais le Seigneur, Jésus, encore moins. Malgré mon handicap, il m'a dit, lève-toi, marche. Je te donne tout plein de nouvelles perspectives. Je vous encourage donc, si vous sentez le Seigneur vous demande de faire quelque chose, ou que vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai ? J'ai rien, moi. Faites-lui confiance. Et encore une fois, merci pour ce verset de tout à l'heure. Paul dit, c'est justement dans ma faiblesse que le Seigneur que la puissance du Seigneur se manifeste. Et donc, que la puissance du Seigneur se manifeste en chacun de vous. Amen.